Chapitre 25. Les cheveux noirs de la jeune femme ne sont visiblement pas les siens. Mais ses yeux sont d'un bleu extraordinaire. Ainsi qu'ont pu le raconter les rares personnes qui ont survécu après avoir croisé la route de Jane Hawke. Un homme massif à la mine grave, le chauffeur en personne débarrassé de sa casquette et de ses lunettes de soleil, un horrible costume noir de confection sur le dos, est assis sur une chaise de cuisine. Il a les cheveux et les yeux noirs, et tient à la main un mug de café si sombre qu'on pourrait le croire puisé dans les eaux du Styx. Il est manifestement là pour impressionner. Un gros bras illettré doté d'un QI qui lui permet tout juste de tenir un volant et d'appuyer sur la détente d'une arme à feu. Booth Hendrickson n'est pas du genre à se laisser intimider par un inculte de cet acabit qui confond le poteau rose avec un poteau rose. Il a eu recours à des dizaines de voyous de ce genre par le passé. Il s'en est débarrassé à la première occasion une fois qu'ils ont exécuté ses ordres. L'intelligence et l'esprit triompheront toujours de la force brutale. L'intelligence, l'esprit et des relations haut placées, ce dont Booth ne manque pas. Il relève à nouveau la tête et croise le regard bleu ciel de Jane Hawke, sans ciller cette fois.
« J'ai signalé à mes hommes que vous vous trouviez chez Simon. Vous avez peut-être réussi à vous échapper avant que mes troupes ne vous tombent dessus. » Mais ils disposent de 1000 moyens de vous retrouver, et ils seront bientôt ici.
1000 moyens? Une belle hyperbole! La remarque le fait sourire.
Il est toujours agréable d'entendre des mots compliqués dans la bouche d'une jolie femme. Vous avez récemment acheté le manuel du petit vocabulaire savant en 20 leçons? Vous y avez peut-être découvert l'expression « lèse-majesté ».
Si ce n'est pas le cas, je vous conseille de consulter un dictionnaire. Les techno-arcadiens dont vous faites partie ne sont pas encore un état souverain que je sache. Vous n'êtes que des éléments séditieux, ivres de pouvoir. C'est vous qui trahissez votre pays en commettant un crime de lèse-majesté. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'elles connaissent l'appellation qu'ils se sont donnée.
Elle aura arraché cette information à l'une des personnes qu'elle a enlevées et interrogées. Elle tire de sa poche un iPhone d'un geste un peu trop théâtral et le pose sur la table avec autant de délicatesse que si elle manipulait un œuf de Fabergé. Elle attend qu'il l'interroge au sujet du portable, mais il n'en fait rien. C'est à qui cédera le premier. Et elle ne gagnera pas à ce petit jeu-là avec Booth.
À condition de contrôler les médias et la justice, on peut accuser de trahison et obtenir la condamnation de n'importe qui. Vous ne contrôlez rien du tout. Alors vous êtes mauvaise juge en la matière. Quoi qu'il en soit, trahir son pays pour donner naissance à une société idéale relève de l'héroïsme.
Elle affiche sa surprise de façon outrancière, une expression moqueuse sur le visage. Une société idéale dans laquelle on a servi les individus en leur faisant un implant cérébral? Il sourit et secoue la tête.
Il n'est pas question d'asservir qui que ce soit, mais d'offrir la paix aux gens en les délivrant de leurs soucis, en donnant à leur existence un sens qu'ils sont incapables de trouver par eux-mêmes.
Elle ouvre la fermeture éclair du cabas posé sur la table, et Booth en profite pour jeter un coup d'œil à l'iPhone. Il s'agit de savoir quelle question elle attend de lui, histoire d'être sûr de ne pas la lui poser. Il oublie le portable en la voyant sortir du sac une grande paire de ciseaux.
« Donner un sens à leur existence, dites-vous » reprend-elle. « Il y a donc tant de gens perdus dans la vie ?»«
Ne vous faites pas l'avocat du diable, Jane. » Vous savez comme moi que des millions de nos semblables gâchent leur existence en consommant de la drogue ou de l'alcool. Ces gens-là sont paumés, indolents, ignares et malheureux. Nous leur donnons une chance de goûter au bonheur en les modifiant.
C'est donc ça, Boo,
Vous leur donnez une chance de goûter au bonheur.
Je ne sais pas si je peux être d'accord. Je trouve que ça ressemble furieusement à de l'esclavage.
Il feint de ne pas avoir remarqué la paire de ciseaux. Les gens que nous modifions ne sont pas sélectionnés sur des critères de race, de religion, de genre ou d'orientation sexuelle. Nous ne visons aucune famille humaine en particulier.
Ce n'est pas de l'esclavage si les gens sont modifiés dans le seul but d'accroître le niveau de satisfaction et de bonheur dans le monde.
Si je comprends bien, Bou, vous faites du mécénat humanitaire. Avec un peu de chance, ça pourrait vous valoir le prix Nobel de la paix.
Bous déteste qu'on l'appelle Bou. C'est le surnom qu'on lui donnait pour se moquer de lui quand il était jeune. Peut-être Jane l'a-t-elle découvert, ou alors elle se fie à son intuition. Elle se figure qu'en le ridiculisant et en l'aiguillonnant, elle parviendra à le déstabiliser. Même topo avec ses ciseaux. De l'intox conçu pour le fragiliser. Elle est mal partie. Il a subi tant de moqueries quand il était petit. Il a eu tout le loisir de s'endurcir. Et si elle s'avise de le torturer, elle s'apercevra qu'il est courageux et endurant. De toute façon, cette fille se pique d'agir dans le respect des valeurs morales traditionnelles, et la torture physique n'en fait pas partie.
Les personnes que vous modifiez ne figurent pas toutes sur votre liste Hamlet, poursuit Jane. Mais si l'on s'en tient à ceux qu'elle désigne, en quoi leur offrez-vous le bonheur en les poussant au suicide?
Ce n'est pas moi qui les choisis. C'est l'ordinateur.
Un algorithme.
Exactement. Il a probablement mis votre mari sur la liste parce qu'il comptait se lancer dans une carrière politique douteuse en quittant les Marines.
Qui a conçu ce logiciel?
Des gens supérieurement intelligents.
Vous parlez sans doute de Bertolt Schenck et de David James Michael.
Des gens plus intelligents que vous et moi, affirme-t-il, alors qu'il est persuadé de leur être intellectuellement supérieur.
Schenck et Michael sont morts. Ce n'est pas très malin de leur part.
Il ne daigne pas lui répondre. Il s'aperçoit soudain que ses ravisseurs lui ont retiré sa veste en voyant celle-ci toute chiffonnée sur le plan de travail.
Ils auraient pu avoir le bon sens de la mettre sur un cintre. Il s'agit d'une veste Dior.
Quant aux sangles qui lui immobilisent les cuisses, elle risque fort de froisser son pantalon.
Jane Oak lui montre l'iPhone avec la paire de ciseaux.
Vous vous demandez probablement à quoi correspond ce téléphone.
Pourquoi me poserais-je une telle question?
C'est un portable, Jenny. Rien de plus.
Il s'agit de celui que vous avez volé à la jeune femme dont vous avez réquisitionné la voiture.
Booth s'efforce de hausser les épaules, handicapé par ses entraves.
Surtout, ne pas montrer à Jane sa joie.
Vous vous êtes servi de ce téléphone pour contacter vos gens et les lancer à mes trousses. Je dispose à présent du numéro que vous avez appelé.
Il ne vous sera d'aucune utilité.
Vous croyez vraiment? Réfléchissez un peu, Boo.
Il n'a pas eu besoin de ses conseils pour y réfléchir. Lorsqu'il a contacté l'unité J, ses équipes ont automatiquement enregistré le numéro de l'iPhone. Ils vont pouvoir s'en servir pour le localiser grâce à la balise de son GPS. Elle tourne son regard vers le chauffeur tout en continuant de jouer avec la paire de ciseaux. Hendrickson lui sourit, comme s'il connaissait la suite. Elle s'approche de la civière en faisant crisser les lames des ciseaux. Elle voudrait que Booth l'interroge sur ses intentions, mais il s'en garde bien. Il affiche sa surprise et son mécontentement lorsqu'elle coupe sans crier gare une mèche de ses cheveux.
C'est quoi ce bordel?
Un petit souvenir, réplique-t-elle en laissant tomber la mèche à ses pieds. Je crains fort d'avoir massacré votre... Comment appelle-t-on ça dans votre monde?
De quoi parlez-vous?
De vos cheveux si bien coiffés.
Vous êtes ridicule.
Les gens comme vous ne se contentent pas d'aller chez le coiffeur. Ils se font faire une coupe par une visagiste.
Le voyou en costume noir ricane dans son coin. Il est difficile de savoir si sa réaction est spontanée ou bien si elle fait partie du scénario.
Combien payez-vous pour une coupe, Bou?
Vous n'arriverez à rien par la moquerie, se défend-il.
100 $?
Bou se mure dans le silence.
Je crois bien qu'il se sent insulté,
déclare-t-elle à l'adresse du voyou.
Ça doit lui coûter au bas mot 200 $, peut-être même 300.
Booth s'aperçoit qu'il regarde fixement l'iPhone. Il détourne le regard, de peur qu'elle ne remarque son manège.
Allez, Bou, combien coûte une séance chez la visagiste?
Il refuse de se laisser caricaturer sous les traits d'un patricien vaniteux. Ce n'est tout simplement pas lui. Il ne relève pas de cette catégorie. Pas plus qu'il n'appartient à celle de Jane. Il plane loin au-dessus de toute considération de classe, de caste ou d'échelon. Le mieux est encore de ne pas répondre. En l'espace d'un éclair, elle passe du calme à la fureur. Ses traits sont déformés par la rage et la haine.
Combien vous coûte une coupe de cheveux, espèce de pauvre connard ?
Elle lève le bras et plante les ciseaux dans le matelas sur lequel est allongé Booth. Les lames le frôlent et il ne peut s'empêcher de sursauter. Du plastique s'échappe de la mousse et la pointe des ciseaux crisse contre la civière en inox après avoir traversé le matelas. Elle veut le convaincre que la mort de son mari et les obstacles semés sur sa route depuis qu'elle est en cavale lui ont fait perdre la boule. Elle entend le persuader qu'elle peut craquer et le massacrer à tout instant, sans le vouloir. Mais il la connaît trop bien pour se laisser berner. Il a étudié en détail les enquêtes qu'elle a bouclées à l'époque où elle travaillait pour le FBI. Elle a fait preuve d'une maestria rare grâce à de brillantes déductions, mettant en œuvre des stratégies avisées tout en utilisant des techniques parfaitement maîtrisées. Cela fait des mois qu'elle échappe à toutes les polices fédérales, régionales et locales. Cette fille ne perd pas la tête à la moindre contrariété. Il n'en coule pas moins un regard en direction de l'iPhone, comme s'il avait le pouvoir d'appeler les unités d'intervention du SWAT par la seule force de sa volonté. Jane se penche sur lui. Sa colère est retombée aussi vite qu'elle est arrivée. Son visage respire le charme et la sérénité. Ses lèvres sont à 20 cm de celles de Booth, alors qu'elle pose la pointe des ciseaux sur la paupière inférieure de son œil gauche. L'acier est froid, la pointe acérée.
Savez-vous pourquoi j'ai posé cet iPhone sur la table, Bou?
Lui glisse-t-elle dans un murmure.
Pour vous donner une bouffée d'espoir avant de vous la retirer. Vous qui avez privé d'espoir tant de gens. J'ai introduit un tournevis dans le port de ce portable, Bou. J'ai détruit sa batterie. Il n'a plus de jus. Sa balise n'émet plus. Personne ne pourra localiser cet iPhone. Personne ne viendra vous sauver.
Trois teintes de bleu différentes viennent strier l'iris de ses yeux, à la façon d'un éventail japonais. À la lumière des néons de la cuisine, on pourrait penser que son regard s'éclaire de l'intérieur. Ses pupilles sont des trous noirs dans lesquels on peut se noyer. Elle s'adresse à lui d'une voix aussi tendre que celle d'une amoureuse.
Dites-moi, Booth, que dois-je vous retirer d'autre, en plus de l'espoir, pour vous inciter à parler? Vos yeux? Ce qui vous empêchera à jamais de voir le mal?
Ce serait une perte terrible, à en juger par le plaisir que vous prenez à savourer le mal que vous faites. Elle pose les ciseaux sur sa bouche.
Ou bien alors votre langue, qui aime tant mentir. Si je vous la coupe, vous serez obligé de répondre à mes questions par écrit, tout en avalant votre sang.
Elle écarte les ciseaux et le surprend en lui caressant l'entrejambe de la main gauche, au niveau du sexe. Vous fréquentez Aspasie, Booth. Booth ne s'attendait pas à ce qu'elle connaisse l'existence des maisons de rencontre, aussi luxueuses que secrètes, dont bénéficient les techno-arcadiens les plus riches. Ils ont choisi ce nom en mémoire de la maîtresse de l'homme d'État qui dirigeait Athènes aux alentours de l'an 400 avant notre ère, Périclès.
« Il en existe 4 », murmure-t-elle. « À Los Angeles, San Francisco, New York et Washington. Les avez-vous toutes testées, Booth ?»«
J'ai personnellement visité l'Aspasie de Los Angeles. » Il s'inquiète intérieurement en apprenant qu'elle a réussi à s'introduire dans l'un de ces temples de l'amour, en dépit de mesures de sécurité draconiennes.
C'est impossible. Elle ment forcément.
Cette allée bordée de palmiers majestueux, la cour intérieure avec son immense piscine, toutes ses œuvres d'art et ses meubles anciens qui ont dû coûter des dizaines de millions de dollars, tout ce marbre et toutes ces dorures. L'endroit respire si bien la classe qu'il donne de l'importance aux adolescents attardés qu'il fréquente.
Elle ne ment donc pas. Elle s'est bien rendue à Aspasie. Elle dissimule sa véritable humeur derrière le paravent de ses mots enjôleurs, de ses caresses appuyées, mais ses yeux trahissent une colère inépuisable. Ce qu'elle a vu à Aspasie est une abomination. La lueur qui brille dans ses pupilles trahit son dégoût.
L'une des filles de l'Aspasie de Los Angeles est une splendide Eurasienne de 18 ou 19 ans qui se nomme Luling. Il s'agit bien sûr de son identité de putain, car elle ne se souvient plus de son vrai nom, pas plus qu'elle n'a conservé le souvenir de ses proches ou de son passé. Elle ne sait même plus ce que recouvrent les mots « passé » et « avenir ». Son cerveau a été effacé, elle ne vit que dans l'instant présent, Booth. Un sourire perpétuel aux lèvres, attentive au moindre désir de ses visiteurs, lavée de toute inhibition. On pourrait presque la trouver joyeuse, si elle n'était pas privée de toute émotion. Elle ne vit que pour satisfaire les désirs de ceux qui l'exploitent.
Pas mal, non? Rien que d'y penser, vous devriez frétiller de la queue, Booth.
Il n'ose pas répondre. Il comprend à présent qu'il a sous-estimé sa cruauté potentielle. La voix douce de Jane se transforme en murmure.
J'imagine que vous avez des fantasmes, Booth. Vous aimez peut-être l'amour brutal, et même très brutal. Ça vous branche de les entendre crier.
L'assurance de sa propre supériorité a permis jusque-là à Booth de se sortir de bien des mauvais pas. Il réfléchit à toute vitesse aux mots qu'il devrait prononcer. Le visage de Jane se trouve à moins de 20 centimètres du sien. Elle continue de lui caresser l'entrejambe en lui envoyant son haleine au visage.
« Je fais très peur au petit garçon de maman, pas vrai? S'il n'était pas terrorisé, son petit soldat se mettrait au garde à vous, mais il reste tout mou. La peur est un bon moyen de regarder la vérité en face. Promettez-moi de me révéler tous les secrets des Arcadiens. Sinon, vous n'imaginez même pas le sort que je vous réserve.
S'il trahit les Arcadiens, ils le tortureront et le tueront pour sa lâcheté. Les autres conspirateurs sont autrement plus sanguinaires que cette salope qui a conservé ses réflexes de droiture. Elle lui en a fait voir de toutes les couleurs ces derniers mois, au point d'en avoir des migraines. Sans doute est-elle capable de se révéler plus cruelle qu'il ne le pensait. Mais jamais elle ne lui coupera la langue ou les couilles, contrairement à ses complices. Elle le terrifie, c'est vrai, mais il doit pouvoir s'en sortir en affichant sa supériorité et sa suffisance. La peur le fait saliver. Il en profite pour lui cracher au visage alors qu'elle est tout près. Il s'attend à ce que ce geste déclenche sa rage, à ce qu'elle le gifle et le griffe, mais il n'en est rien. Sa sérénité reste intacte. Elle continue de l'observer sans bouger.
Puis elle se redresse lentement et le regarde en silence, le visage impassible. Une minute s'écoule sans qu'elle cherche à s'essuyer le visage. Des gouttes de crachat brillent sur ses joues et son menton. Une coulée visqueuse perle à l'extrémité de son nez parfait. Elle lui tourne le dos et se dirige vers l'évier. Au lieu de se nettoyer à l'aide de papier absorbant, elle se contente de regarder par la fenêtre. Sa réaction est si inattendue que Booth sent un vent de panique s'emparer de lui dans le silence de la pièce. Il hésite à la quitter des yeux et finit par se forcer à regarder le voyou en costume noir qui le dévisage avec des yeux aussi noirs que des nids de tarentules en plein désert. Jane se retourne vers son compagnon.
Je dois aller aux toilettes. Fais-le taire pendant mon absence.
Je le chloroforme?
Non.
Bâillonne-le avec du scotch.
Sur ces mots, elle quitte la cuisine sans un regard pour le prisonnier, le visage humide de son crachat. Booth entend brusquement dans sa tête l'avertissement qu'elle lui a donné un peu plus tôt.
« Vous n'imaginez même pas le sort que je vous réserve. »